Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Les publicains et les pécheurs l'approchaient tous afin de l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient : celui-là, il fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Or, il dit à leur adresse cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il vient en perdre une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller près de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il a la charge tout joyeux sur ses épaules. Puis revenu chez lui, il convoque ses amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous l'ai dit, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien quelle est la femme qui, si elle possède 10 drachmes, en vient à perdre une ? N'allume la lampe, ne balaye sa maison, et ne cherche avec soin jusqu'à les retrouver. Et quand elle l'a retrouvée, elle convoque ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Gloire au Christ, parole éternelle, Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Nous venons de l'entendre. Le Seigneur Jésus insiste à deux reprises. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et puis, ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Alors ce matin, nous avons tenté, en suivant l'exposé des pères de saint Thomas d'Aquin, de parler des anges en termes théologiques, plutôt intellectuels. Et voici qu'au sein de cette liturgie, le Seigneur Jésus lui-même nous parle d'un sujet que nous n'avons considéré qu'indirectement, en parlant de la béatitude des anges, de leur éventuelle vision béatifique, à savoir la joie des anges. Certes, quoi qu'il arrive, la vie des anges est toujours pleine de joie, puisqu'après leur épreuve, ils ont reçu pour l'éternité la joie de la louange, à laquelle Dieu invite aussi les hommes, s'ils veulent bien l'accepter. Mais cette joie des anges peut varier, être plus ou moins grande, et de façon un peu étonnante, quand on y pense en liaison avec ce qui se passe dans notre monde, le monde des hommes, auxquels ils ont d'ailleurs pour tâche de prodiguer leurs conseils. L'une des invocations que l'on a coutume d'émettre dans le cours du chapelet dit de la couronne angélique ou de Saint-Michel est celle-ci, à propos de la dernière hiérarchie, le dernier ordre. Par l'intercession de l'archange Saint-Michel et le cœur des anges, que le Seigneur nous accorde la docilité aux inspirations de nos anges gardiens. Comment pouvons-nous donner beaucoup de joie aux anges et adhérer à Dieu lui-même et à la cour céleste? Eh bien, tout simplement, nous l'avons entendu, en nous convertissant nous-mêmes, ou bien en obtenant par nos humbles prières la conversion d'une personne que nous connaissons, ou parfois que nous ne connaissons pas, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus obtenant in extremis la conversion d'un criminel condamné à mort. Nous pouvons avoir une petite idée de cette joie, si nous avons nous-mêmes fait l'expérience d'une conversion ou de plusieurs conversions, puisque somme toute, c'est tout au long de notre vie que nous sommes appelés à nous convertir. Celles ou ceux d'entre nous qui ont vécu une puissante conversion soudaine, souvent après une longue période de doute et de ténèbres, connaissent cette joie intense que procurent les larmes du repentir, le frémissement de l'Esprit Saint, l'éruption dans notre vie, toute notre vie, de cette joie intense, de cet amour de la miséricorde et de la miséricorde infinie de notre Dieu. Car c'est bien lui, Dieu, le bon berger de la première parabole que nous avons entendue aujourd'hui, celui qui, même s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne fait pas comme les économistes ou des hommes politiques aujourd'hui de calculs statistiques, mais part à la recherche de la brebis perdue, en abandonnant toutes les autres dans le désert, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé celle qui est égarée. La description que nous donne Jésus des retrouvailles évoque la joie de Dieu lorsqu'une créature humaine qui par le péché était partie à la dérive revient vers lui. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, il rassemble tous ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Cette fête dans le ciel nous rappelle et nous annonce, puisque c'est la séquence qui suit immédiatement dans l'évangile de Saint-Luc, nous rappelle celle que le père du fils prodigue organise. Donc enfin, celui-ci revient tout penaud après lui, vers lui, après une vie de débauche, de jouissance vaine, puis d'errance. Il nous faudrait comprendre à quel point le Père nous aime, veut notre bien et se réjouit lorsque nous revenons vers lui. Un de nos saints franciscains, saint Capucin pour être précis, saint Joseph de Cupertino, qui au début de sa vie religieuse était un simple frère laid, chargé de garder les brebis de sa communauté, avait, paraît-il, appris par cœur cet épisode évangélique de saint Luc de la brebis perdue. La Providence voulut, alors qu'il n'était pas vraiment très doué pour les études théologiques, que lors de l'examen qu'il dut subir pour devenir prêtre, on l'interrogea sur cette parabole. Il passa très brillamment, dit-on, cet examen. Apparemment, il avait tout compris. Le Seigneur se compare aussi dans la deuxième parabole à cette femme qui, en ayant en sa possession 10 pièces d'argent, en perd une, allume sa lampe, balaye sa maison, cherche avec soin jusqu'à ce qu'on retrouve la pièce perdue. Cette deuxième parabole ajoute peut-être quelque chose par rapport à la première, à savoir la grande valeur de la pièce d'argent. Il ne s'agit pas d'un petit sou, il s'agit d'une pièce d'argent, d'un drachme. Sans doute le Seigneur veut-il montrer par là le prix qu'il attache à chacune des pauvres brebis que nous sommes. Les pharisiens, on les a entendus, lui reprochent au début de faire bon accueil aux pécheurs, de manger avec eux. Et, disons-le franchement, il n'est même pas sûr que ses interlocuteurs grincheux fassent partie des 99 justes. Ce sont eux qui se croient des gens bien, des justes. Ils n'ont tout simplement rien compris à la logique de Dieu, à la logique de l'amour fou. Cet amour a conduit le Christ, comme le rappelle Paul dans la première lecture, extraite comme celle d'hier de l'Épître aux Romains, l'a conduit jusqu'à mourir pour nous, afin que nous puissions vivre de lui. La croix du Christ, qui est la sagesse de Dieu, nous dit-il ailleurs dans l'Épître aux Corinthiens, est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous proclamons, poursuit Paul, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. C'est elle, sa croix glorieuse, qui nous justifie aux yeux du Père et qui nous vaut de pouvoir vivre de la vie même du Christ. Toute notre vie est ainsi totalement transformée. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne mourrons même pas pour nous-mêmes. Il est bon de nous souvenir de cela à une période actuelle où la crainte de la mort a revêtu une plus grande puissance que jamais. En fait, nous dit l'apôtre, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Dans une autre lettre, en Galates 2:20, il dit cela de manière similaire, je l'ai déjà cité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la vraie folie de Dieu, la folie de l'amour. Mais Paul nous rappelle aussi, à la fin du passage que nous avons entendu aujourd'hui, vivre, que nous aurons des comptes à rendre à la mesure de la grâce que nous aurons reçue. Vivre dans le royaume, comme nous avons été appelés à le faire, suppose que le regard que nous portons sur tous les autres doit être changé. Il faut, autant que faire se peut, épouser le regard infiniment miséricordieux de Dieu sur chacun d'eux. Nous l'avons entendu en première lecture. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Ce qui t'est demandé, c'est d'aider ton frère à vivre cette conversion qui cause tant de joie au ciel. Et si tu ne peux le faire directement, au moins de prier pour lui, d'offrir même tes souffrances pour lui. Si, comme le psaume le suggère, nous voulons voir les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, c'est dans la mesure de nos faibles forces, aider nos frères à chercher une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie. En entrant plus avant dans ce mystère de l'Eucharistie, demandons cette grâce au Seigneur et nous lui donnerons beaucoup de joie. Nous en donnerons aussi à tous les saints que nous avons coutume de prier et à tous les saints anges dont nous savons qu'ils concélèbrent autour de l'autel. Dans ce mystère, le Christ va s'offrir parmi nous. Déposons tout souci du monde. Allons à la rencontre du Seigneur avec les puissances du ciel et tous les saints. Chantons le Seigneur vivant et trois fois saint. Amen.